9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Pourquoi elle m'a fait ça?
Mais qu'est-ce qui se passe, Alex?
Tu es en face de toi, un homme trompé, humilié.
Ah bon? Bah qui ça?
Bah moi!
Mais qui t'a trompé, enfin?
Bah super, tu t'en es même pas rendu compte alors que tu les as regardés faire!
Mais de quoi?
Mais vous êtes tous déjà passés autre chose, j'existe plus pour vous!
Mais qu'est-ce que tu racontes, là?
Mais vous m'avez remplacé hier par le réalisateur de l'émission!
Ah,
le réalisateur!
Salut les amis!
Et voilà, et l'autre qui arrive comme une fleur.
Bah quoi?
Tu m'as déjà oublié, Charlie.
Hein?
Tu m'as outragé. Brisé.
Quoi?
Martyrisé.
Non mais attends, le prends pas comme ça, tu sais Alex, on est un vieux couple, alors un petit peu de changement de temps en temps.
Bon, mais bah... t'aimerais bien toi que j'aille faire le beau chez Laura Adler pour co-animer l'Or Bleu?
Alors moi oui, mais Laura Adler non.
Non mais Alex, elle a juste fait une incartade, enfin c'est pas si grave,
ah,
ça se comprend, après toutes ces années.
Voilà, j'avais juste besoin d'un co-animateur, ah. Tu sais dans ces cas-là, tu connais l'adage.
Un perdu, disent de retrouver.
Ah, hein. Vous fatiguez pas, j'ai compris.
Mais tu sais Alex, tu gardes une place toute particulière dans mon cœur.
Particulière, comme un ex égaré qu'on irait saluer dans un EHPAD de province.
Ah bah c'est la vie, la roue tourne.
Non, j'ai compris, c'est bon, ne me retenez pas, je vous ralentis. Laissez-moi là.
Mais arrête, allez Alex, fais-nous un journal de 17h17 comme mon bon vieux temps.
Non, le plus la force.
Tu pourras mettre des brèves dedans.
C'est vrai, je peux. Oh Charline, Charline, toi seule me comprends.
Allez, allez, au boulot chouchou.
Allez, oui loulou.
Fais gaffe Alex, il y a ton remplaçant qui te regarde à travers la vitre quand même.
Bonjour la France Inter, bienvenue chez les Têtes à Claque. Voici la devise du jour que nous devons à Pape Ndiaye. Mieux vaut être seul qu'assis entre Darmanin et Damien. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Vous avez choisi une pièce de théâtre aujourd'hui, La Dame aux Camélias. Oui, il ne s'agit donc pas du roman d'Alexandre Dumas, mais du drame en 5 actes de Dumas fils.
On va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel. Je suis obligé de venir, moi.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Aujourd'hui, vous êtes au cœur du réacteur de l'actu.
Oh là 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 là, oui. Je suis allé interroger les actionnaires du groupe Total. Il y avait leur assemblée générale ce matin. Fortement perturbé par des militants écolos qui, évidemment, rêvent d'un monde où on se déplaçait comment?
C'est des charrettes à cheval et des patinettes.
Ben voilà, les amiches de mes amiches sont mes amis.
La Jupy Masterclass de cinéma vous est proposée aujourd'hui par Marion Séclin. Bonjour.
Bonjour.
Marion, vous avez choisi de revoir le film culte d'une génération. Ça me fait déjà des trucs. Dirty Dancing d'Emile Ardolino.
Il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire.
Oui, oui. Allez, vous aurez que vous êtes mon partenaire.
Oh là là, je vous laisse pas dans un coin, en tout cas, vous savez. Allez, commençons par présenter les deux dernières de l'équipe.
Oui, car ceci est votre espace, ouais. Ceci est mon espace.
Elle va faire ça toute l'émission, donc.
Oui,
d'accord. Okay.
C'est pas grave. Il faut savoir supporter sa collègue de travail.
Il y aura un porté à rendre l'émission. Moi, je vais être là, juste, je veux pas le louper.
Allez, hein, on présente les deux dernières. Celle qui a essayé de tuer Guillaume Meurice. Dans le bureau, apparemment, il aurait fait une faute d'accord du participe passé. C'était Lalia Véron. Bonjour.
Bonjour, je tiens à préciser, c'était de la défense. Hein. C'est lui qui a commencé.
Oui, c'est toujours ce qu'on dit. Alors, de quoi on va parler?
Des nouveaux mots du dictionnaire.
Très bien. Et ensuite, celle qui a également tenté de tuer Guillaume Meurice dans le bureau. Apparemment, Guillaume aurait voulu lui faire écouter le nouveau morceau de son groupe de rock Les Disruptifs et elle n'a pas tenu. C'est vous, Marina Chiche, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on va raconter sur la musique?
Alors je vais vous dévoiler un gros dossier sur un des tubes de la musique classique. Ça va être sulfureux, politique et polémique.
Oh là là, là. On dirait du Bernard de la Villardière quand vous demandez votre chronique. Ajoutez à cela un journal loufoque, des exercices à bloc et un dessin baroque et vous obtenez le premier JP Class sous l'air d'un ministre de l'éducation woke.
France Inter.
Eh oui, les rimes en
haut.
C'est pas évident.
Par Jupiter.
Mais non, par Jupiclass. Au boulot.
Et au boulot, Marion Séclin, j'ai l'impression. Vous faites partie de la troupe aujourd'hui.
Oh là là, je me sens à ma place et pas à ma place à la fois. J'ai l'impression d'avoir. J'aurais dû être là depuis le début, mais pourquoi vous m'aviez pas appelé? Et puis finalement, je me dis en même temps, c'est bizarre, je suis jamais venue.
C'est vrai.
Voilà.
Comme invité, vous êtes déjà venu.
Exactement.
Marion. Je rappelle que vous êtes scénariste, auteur, vidéaste. Vous avez écrit quelques chansons pour l'album d'Irma que nous allons recevoir bientôt dans cette émission. Je crois que ce sera le 9 juin.
Absolument.
Et voilà. Et donc, moi, je vous suis suis sur Instagram et j'ai vu que vous aviez un peu sur un coup de tête lancé un concours.
J'ai lancé un concours, mais ça n'avait ni queue ni tête. C'était même pas du tout un concours qui était censé être organisé pour faire deviner, pour faire écouter l'album aux gens.
Ouais.
Je leur demandais d'écouter l'EP entier et de deviner quelle chanson j'avais écrite. Mmh. Et je leur offrais un CD dédicacé. Sauf qu'il se trouve que d'abord, le CD n'a jamais été pressé. Donc je vais devoir le graver. Donc, vraiment, je vais devoir le graver. Et qu'on n'a plus rien pour écouter les CD. Donc j'ai dû acheter un Discman.
Ouais.
Voilà. Donc ça va être vraiment le concours le plus pété de France.
Mais donc ça veut dire que quand on connaît votre travail, qu'on vous suit, etc., on est capable de repérer quels textes sont de vous.
L'avantage avec Irma, c'est que on a réussi à bien fondre nos écritures. Donc, en général, les gens, même de ma famille, qui ont tenté de deviner, ils sont tombés à côté. Donc, ça, on ne sait pas.
Ah ouais.
On verra.
Ils n'ont pas gagné le disque.
Non, et ils n'ont pas gagné le disque et le Discman et le petit collier des années 2000. Ouais, non, du coup, je fais un kit années 2000 parce que je me suis dit foutu pour foutu, autant que la personne en ait vraiment pour sa participation, quoi.
Bon, on en discutera de toute façon avec Irma qui viendra nous rendre visite dans cette émission. Alors, vous écrivez beaucoup de choses, des séries. Vous...
Oui.
Ouais. Alors, vous ne pouvez pas en parler, ça vous l'est, parce que c'est des projets. Vous écrivez beaucoup. Un projet de roman aussi, peut-être.
Ouais, exactement.
Comment est-ce que vous vous disciplinez?
Question intéressée de Charlie.
En général,
de tout le monde, je pense. De tout le monde.
En général, je dis d'abord oui à tout, puis je fais une sorte de burn-out ou de bore-out, ça dépend. Et à partir de là, je décide de me discipliner et donc de n'accepter plus que deux gros trucs importants qui vont me prendre toute ma vie. Mais je suis obligée de passer par l'étape. Dis donc, j'ai vraiment plus envie de me réveiller le matin. C'est ouais, voilà. D'accord. C'est une manière comme une autre d'essayer de se motiver un petit peu.
Et de sélection. C'est votre modus operandi, quoi.
Un peu, ouais.
D'accord, très bien. Alors, Marion Seclin, on vous entendra à la fin de l'émission pour votre Jupi Masterclass de cinéma.
Oui.
Mais intervenez quand vous voulez, hein. C'est un espace de liberté. C'est par Jupi Class. Vous faites partie de la troupe.
Chouette.
Et dans cette troupe, il y a une stylisticienne et linguiste. Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est que stylisticienne, là, Elia.
Qui étudie la stylistique, ça marche ou non?
Oui, donc la stylistique, c'est quoi?
La stylistique, on va dire, c'est l'application des outils de la linguistique à des corpus aussi littéraires.
Oui, voilà. Bah voilà tout ce qui est corpus.
À des textes aussi littéraires. Voilà,
oui, voilà. Ça, voilà.
À base exactement. De
corpus, hein, bonne ambiance, voilà.
Ouais. Eh ben, c'est un bon lancement. Allez-y pour votre chronique, ça va être simple.
Faites-tu quand même une chronique à ce moment-là?
Alors, je voulais vous parler des nouveaux mots, mais ces temps-ci, vous savez, c'est le temps des scandales avec Abad et compagnie. Mais est-ce que vous vous souvenez du plus grand scandale de fin 2021? Celui qui a été traité par tous les journaux, qui a fait du bruit à l'international jusqu'au Japon?
C'est Yale.
C'était Yale, bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte avec le temps de ce qui s'est passé? Il y a un mot qui était employé par certaines personnes, il y a un dictionnaire, le Robert, qui l'a recensé, en précisant rare, et qui lui a donné une définition.
Mm-hmm.
C'était fou quand même, quoi. Enfin, ça va pas du tout. Enfin, voilà, ça a été la plus grande polémique de tous les temps, ou presque. Bon, en réalité, les choix des dictionnaires ont toujours soulevé des polémiques. Nous, on a eu Yale. Il y a aussi le Robert qui avait intégré très tôt le mot autrice en 96. Ça a fait du drama. Et en 67, déjà, Maurice Druon, académicien, reprochait au Robert, je cite, de ramasser les mots dans le ruisseau. Et Alain Rey lui avait répondu que le dictionnaire était un observatoire, pas un conservatoire. Et pourquoi autant de passion? Parce que le dictionnaire est vu comme un outil de légitimation. Vous avez déjà dû entendre la phrase « pour savoir si un mot existe, regarde dans le dictionnaire ». Ou « pour savoir si un mot est français, regarde dans le dictionnaire ». Et en vrai, c'est un peu absurde parce que les mots ne poussent pas dans le dictionnaire. C'est nous qui les inventons, qui les employons, puis ils sont intégrés dans le dictionnaire. L'exemple type, hein, c'est les mots du confinement. Tout le monde a employé « reconfinement » ou « passe sanitaire » avant qu'ils n'entrent dans le Larousse ou le Robert. Et parmi les nouveaux mots du dictionnaire, il y a ceux que l'on crée à partir du français, mais aussi ceux qu'on emprunte à d'autres langues, qui sont en usage, plus ou moins large ou restreint. Par exemple, le mot « emoji », je pense que vous l'employez depuis longtemps. Mm-hmm. Bon, bah, il a intégré le Larousse en 2022. Et il y a des mots aussi d'un usage plus restreint. Par exemple, vous savez ce que c'est un cacapot?
C'est un perroquet, bien évidemment.
C'est un perroquet bien joué qui intègre le mot qui intègre l'édition 2023 du Larousse. Donc, la phrase « pour savoir si un mot existe, regarde dans le dictionnaire » ne fonctionne pas. D'abord, parce qu'un mot existe avant d'entrer dans le dictionnaire. Et ensuite, parce que tout dépend du dictionnaire que vous consultez, de sa ligne éditoriale, plus ou moins descriptive ou normative, plus ou moins prudente ou rapide. Et tout dépend aussi de son support. Les dictionnaires numériques, comme le Wiktionnaire, vont intégrer bien plus de mots que les dictionnaires papier. Vous avez trouvé, par exemple, « racisé » dans le Larousse.
Marcus Le Robert, mais pas dans le dictionnaire de l'Académie française. Surprise,
étonnant.
Vous allez trouver quelquefois les mêmes mots dans les dictionnaires, mais avec des définitions différentes. Par exemple, la définition de sodomie dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est... Meurs contre nature.
Ça, bon,
c'est ça, c'est leur définition. Mais bon, vous savez hein, maintenant que pour la mise à jour, c'est très lent, et donc c'est la définition de 1935, ce qui explique peut-être cela. Bref, vous allez trouver, même selon le dictionnaire, quelquefois des orthographes différentes et finalement une vision du français différente. Et pour finir, quel est le nouveau mot dont l'usage explose, ce qui justifie sa présence dans les nouvelles éditions du Robert et du Larousse ? C'est « woke ». Bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas soulevé les polémiques habituelles. On n'a pas entendu les récriminations habituelles contre les anglicismes qui envahissent le français. On n'a pas entendu les arguments souvent mobilisés contre les mots féminisés. Vous savez, genre « ah mais non, cafetière, ça va pas, on va confondre la femme qui tient le café et l'objet ». Là, personne ne l'a dit. « Ah mais non, ouais, c'est pas possible, on va confondre Guillaume Meurice avec un ustensile de cuisine, par exemple ». Et pourquoi il y a eu des... pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ces réactions-là ? Peut-être parce que c'est un mot employé actuellement avec une connotation négative par un public politiquement conservateur, mais qui là oublie ses réflexes conservateurs en matière de langue. Et peut-être aussi que woke aura une autre définition dans une prochaine édition. L'usage nous le dira. À nous d'inventer des définitions et des mots pas encore dans le dico.
Merci Laëlia Véron. J'ai une question, c'est peut-être une colle, vous me dites. Hein. Parce qu'il y a le Larousse, le Robert, ça. Il y a aussi le dictionnaire du Scrabble.
Oui.
Bah ouais.
Bah avec un capot. Bah, je peux vous dire sur un mot qu'on triple.
Pourquoi est-ce qu'il y a un dictionnaire du Scrabble alors qu'on a le Larousse
Parce que justement, il va y avoir des choix différents. Il faut qu'il y ait une référence commune pour les joueurs. Parce que si vous regardez dans le dictionnaire, par exemple, si quelqu'un a, je sais pas, le petit Robert d'un côté et que l'autre a le dictionnaire, ils vont pas être d'accord sur les mots qui sont permis. D'accord. Si vous avez le dictionnaire des francophones, par exemple.
Mais est-ce qu'il y a la VAR au Scrabble, du coup?
Non.
Il y a personne qui rigole, mais personne sur le foot,
c'est l'arbitrage vidéo.
Mais oui. Oh là là.
C'est possible que ce soit accepté. Hein.
Ouais.
Il y a quelques acronymes au Scrabble.
J'ai loupé un truc.
Il y a deux mondes entre le monde du Scrabble et
j'ai rien pigé. Il y avait une blague qui s'est passée. Peut-être des auditeurs n'ont pas entendu. Est-ce qu'on peut la refaire ?
La VAR, c'est au foot quand l'arbitre veut regarder la vidéo pour être sûr que
Moi j'étais sur Molière.
Moi aussi, j'étais sur Molière.
Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?
Ici c'est RMC.
Excusez-moi. Bah ouais. Venez Marion, on va aller, je sais pas, on va aller faire une équipe nous deux. Ouais. On va faire deux équipes, Marion Séclin et moi, et puis le reste, voilà, hein, parce qu'on n'est pas sur la... Hein. En attendant, 113, tonton du bled, ça tout le monde connaît.
Les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture, j'ai
ouais, Bilal,
monte,
il
monte,
s'en
va. Monte, Bilal, elle monte, hé, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Hé, mes Karim, tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt, bled du bledi.
Ouais, bledi.
504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à ti, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés, et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au Boukouskous de Yema. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
Sahat Arak Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. D'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, un beya. Content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant 2 semaines j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
Avec Marion Séclin qui nous accompagne pour une Jupi Masterclass de cinéma, plein de chroniqueurs et un journal de 17h17 bien sûr.
Oh là là. Bonsoir, merci infiniment cher Jean-Michel. Toutes mes forces sont désormais au service de mes nouvelles fonctions, au service de ce beau ministère, au service de la France.
Le journal de presque 17h17.
Laissez-moi sortir.
Et on commence par les titres.
Selon BFM et France Info, l'Élysée et Matignon auraient été informés de la première plainte déposée contre Damien Abad avant sa nomination.
Ouais, visiblement au gouvernement, ils écoutent personne.
C'est-à-dire?
Bah non seulement ils écoutent pas la parole des victimes, mais ils écoutent pas non plus la parole de ceux qui les préviennent qu'ils allaient commettre une grosse boulette.
À Roland-Garros, oui. Joe Wilfried Tsonga a reçu un vibrant hommage du cours Philippe Châtrier après avoir joué le dernier match de sa carrière où il a dû s'incliner en 4-7.
Anne Hidalgo était dans l'incompréhension. Quelqu'un qui se fait ramasser dès le premier tour et qui reçoit une ovation, ça l'a déstabilisé.
Et des brèves ?
Et des brèves. Une ovation pour les brèves ! C'est mon quotidien.
Non.
Oui, parce que non, mais vous êtes pas au bon endroit.
Pas du tout, en fait. Vraiment pas du tout.
Mais laissez-le dans ses rêves, ouais, c'est beau, bon. C'est mignon.
Il y a des gens qui aiment, de temps en temps.
Oui, oui,
il y en a
oui,
qui
oui,
me
oui.
Le disent.
Allez, on commence par cette belle nouvelle venant d'un grand patron.
Et oui, calmez-vous, Guillaume, parce que ça va bien se passer. Oui, un grand patron qui a fait quelque chose de bien.
Stéphane Bancel, le patron de Moderna, va faire don des ventes de ses stock options à des œuvres de bienfaisance. Quoi, ça?
C'est rien, c'est Dominique Seux qui vient de découvrir l'information. Ouais.
Ok, donc la vente de ces stock options devrait rapporter quelques 331 millions d'euros. Ouais.
C'est rien, c'est Nagui qui vient de découvrir le chiffre.
Passons à l'international. Dans la foulée de l'aide de 40 milliards de dollars accordée aux États-Unis à l'Ukraine, la Russie a décidé d'interdire l'entrée dans leur pays à 963 personnalités.
Oui, dont 7 personnes mortes, comme l'ancien sénateur John McCain, par exemple.
Ah, quand même.
Et oui, mais du coup, je peux vous affirmer sans me tromper que pour ces 7 personnes, l'interdiction de territoire devrait être rigoureusement respectée.
Ukraine toujours, le porte-parole de l'ambassade russe en France était sur RMC.
Oui. Et il a voulu rassurer sur le fait que, bon, Mariupol, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu en ruine, mais les nouvelles autorités ont déjà tout prévu.
Les autorités de la République populaire de Donetsk, d'après leur déclaration, ils veulent transformer cette ville traditionnellement industrielle en une ville balnéaire, la plus belle peut-être de la région. Donc là, on va voir, c'est la question du temps.
Voilà. Mais en fait, oui, alors, oui, mais merci qui? Mais c'était dégueulasse avant Mariupol. Mais ça va être magnifique. Hein. Je vais vous dire, quand il va s'occuper de la Grande Motte, ça va être quelque chose, Vladimir.
Actualité judiciaire. Alors, mis en examen pour viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans. Corruption de mineurs et abus de faiblesse, Jean-Luc Lahaye a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Ouais, perso, moi je l'aurais gardé 3 mois de plus.
Pourquoi ça?
Pour qu'on ait fini les vacances scolaires. Ça aurait été bien pour tout le monde.
Alimentation maintenant, les magasins Carrefour rappellent des saucissons secs contaminés au salmonelle.
Après le Kinder Surprise, les saucissons secs. Il ne reste plus qu'à retirer de la vente les fromages à raclette et toute la chaîne alimentaire d'Emeric Lomprey sera réduite à zéro.
Et puis l'ONG Pesticide Action Network a démontré que les fruits vendus dans l'Union européenne contiennent de plus en plus de résidus de pesticides.
Oui, il faut voir aussi le bon côté des choses. Hein. Si vous avez une mauvaise circulation sanguine, en mangeant régulièrement des fruits, normalement, vous devriez ne plus jamais avoir des fourmis dans les jambes.
Mais si,
on peut réfléchir, elle tombe pas toute seule.
C'est mercredi, c'est le jour des enfants. On aurait pu avoir une blague de tub et un truc de fou.
Peut-être elle arrive, attention.
J'ai regardé parce que j'étais pas sûr de moi, mais ça va.
Je me suis avancée un petit peu vite, peut-être. Des brèves.
Voilà, c'est une Indienne qui vivait déguisée en homme depuis 36 ans pour élever seule son enfant. Et ben, il est pas mal, ce deuxième opus de Madame Doubtfire.
Et la dernière,
à Bruxelles, une église désacralisée va se transformer en salle d'escalade. Une façon comme une autre de célébrer l'ascension. Ça, il y a du respect là-dedans.
Vous voyez, il y a une ovation.
Je vous l'avais dit, je vous l'avais pas dit.
Et donc, après cette ascension, vous allez jouer...
Je vais redescendre.
À Marseille.
Sur Marseille, sur la Bonne Mère.
Vous allez jouer le 1er juin au Silo.
Le 1er juin chez Marina Chiche.
Mais oui.
Elle va amener tous ses amis, donc réservez vite, parce que bientôt, il n'y aura plus de place.
Elle fait la première partie, peut-être.
C'est vendeur.
Elle a d'excellentes blagues, Marina Chiche.
C'est la première partie en pole dance, a priori. D'après les infos que j'ai.
Très bien. Bon, allez, on y va. Juliette Arnaud. Alors, vous avez choisi La Dame aux Camélias, mais pas le roman. Vous avez choisi la pièce de théâtre.
Oui, ouais. J'ai le droit.
Mais faites ce que vous voulez. Hein,
sans, c'est trop tard, on imagine.
De toute façon, maintenant, c'est foutu.
Bon,
hein.
De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà.
J'y vais, quand même. Allez, j'y vais. Si la dépouille d'Alexandre Dumas repose au Panthéon, c'est qu'il est le père, entre autres, des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. Mais de son vivant, Alexandre Dumas a également produit un certain nombre d'enfants de chair et d'os, dont Alexandre Dumas, fils, l'auteur de La Dame aux Camélias, donc l'aîné, il a connu un démarrage dans la vie assez compétitif en termes de pénibilité. Comme d'autres sont le fils du facteur, quand maman s'ennuie toute seule à la maison, Alexandre Dumas, fils, lui, est le fils de la voisine de palier, quand papa fait au plus simple. Bon, déjà, mettons. Et puis, il ne sera donc que le fils. Alexandre Dumas, fils, l'équivalent du junior américain. Bref, quand tu croises l'ego du môme, tu lui demandes comment ça va la petite santé, et l'ego du môme, il te fait « Oh, ben photo quand même hein. !» Bon, vous allez me dire, ceci n'est qu'un prénom, sauf que lui, Alexandre Dumas, fils, n'est pas reconnu par son père à sa naissance. Bon, au 19e siècle, c'est un état assez commun pour un siècle assez peu enclin et du côté des femmes et des mômes. Sauf que lui, au départ, n'est pas plus reconnu par son père que par sa mère. Là, ça commence à faire bon. Et ça dure 7 ans, et puis finalement, le futur panthéonisé le reconnaît, hein, donc je pense qu'Alexandre Dumas ne rentrera pas au panthéon des grands géniteurs. Et comme il est devenu riche, Alexandre Dumas emploie avec son fiston une méthode éducative très prisée chez les nantis et célèbres. Je te donne pas l'heure, mais je te file beaucoup de pognon puisque j'en ai et que je me sens coupable. De la sorte, Alexandre Dumas fils mène les premières années de sa jeunesse une vie de dandy, pleine de luxe, de tapage, ceci, cela. Et consécration, il a une liaison de près d'une année avec la courtisane la plus célèbre sous Louis-Philippe, j'ai nommé Marie Duplessis. Ils se séparent, elle meurt peu après. Alexandre Dumas fils s'inspire d'elle et de leur histoire pour écrire d'abord un roman, La Dame aux Camélias. 4 ans plus tard, il en fait une pièce de théâtre. À nouveau un énorme succès. Bref, La Dame aux Camélias, eh ben, c'est un genre d'autofiction, c'est-à-dire la vraie vie remaniée en écriture romanesque, qui plus tard se meut en écriture théâtrale et puis après en écriture cinématographique, avec des comédiennes toutes plus célèbres les unes que les autres, Sarah Bernhardt, La Duse, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert. La Mue, c'est le concept au centre de tout dans cette affaire, l'intrigue en elle-même. Une courtisane, fille de vice donc, qui par amour se sacrifie jusqu'à la mort comme une sainte. Mais d'abord la mue d'une femme en chair et en os, une jeune fille née dans le ruisseau, dans la plus grande misère, qui lâche son nom de baptême, Rose Alphonsine, pour devenir Marie Duplessis, puis Marguerite chez Dumas fils, et Violetta chez Verdi dans La Traviata. Mais si vous pensez que cette mue n'est que vertueuse et respectueuse des codes du 19e, bourgeoisement moral et respectable, la fille de petite vertu paye ses fautes, tout va bien, et que Dumas fils avait oublié les conditions de sa naissance à lui, alors il est temps de lire ou de relire cette pièce de théâtre. Mais voyez plutôt, la pièce commence, Marguerite, bien que malade salement, elle est phtisique, c'est-à-dire tuberculeuse, espérance de vie quasi nulle. Donc malgré ça, elle fait la fête chez elle. Elle mène grand train, elle est malade mais elle est fort belle, elle sort du ruisseau mais elle est fine et elle est lettrée. Un jeune homme, Armand Duval, s'incruste à un dîner et il lui fait, comme chez les Marseillais, une note d'éclat. Il la voit s'épuiser de fête alors qu'elle est très malade et il lui dit « Je voudrais être votre ami, votre parent pour vous empêcher de vous faire du mal ». Et il lui explique que depuis 2 ans, il l'aime silencieusement et de loin. Il parle un peu, il finit par lui dire « Vous n'avez donc jamais aimé personne ?» Et elle, « Jamais, grâce à Dieu. » Et puis Marguerite, touchée, Armand Duval s'en va, elle est seule en scène, elle monologue, et elle dit, elle a ces mots, « Pourquoi pas ? À quoi bon ? Ma vie va et suce sans cesse de l'un à l'autre de ces deux mots. » Alors la question c'est, va-t-elle choisir « Pourquoi pas ?» ou « À quoi bon ?» Eh bien, ça sera la semaine prochaine. Ah. Merci, bisous, merci.
Merci, Juliette Arnaud, pour cette lecture.
Mais je vous en prie.
Mais oui. Marion Séclin, est-ce que vous relisez des classiques de temps en temps? Vous qui écrivez beaucoup, est-ce que vous puisez parfois?
Non, rarement. En fait, tout ce qui a été au programme scolaire m'a dégoûtée.
Ah oui, c'est vrai?
Ouais, donc j'ai beaucoup de mal à relire les choses qu'on m'a forcé à lire et ou qu'on m'a forcé à lire à d'autres enfants. Je suis navrée. Autant les classiques au niveau film, comme vous avez pu le voir, c'est mon truc, mais les classiques niveau livre, pas tant. Ouais. J'ai un gros manque de culture à ce niveau-là.
Mais alors, vous allez plutôt vers les contemporains, les essais
Ouais, plutôt vers les contemporains,
les essais.
Parce
que la bibliothèque tient une place importante chez vous.
Oui, absolument. Ouais. Déjà parce que j'ai fabriqué moi-même le meuble.
Mais non.
Bah si. Bah si, bien sûr.
C'est vrai.
Oui, bien sûr. C'est ma passion de fabriquer des meubles. Donc, elle est pleine de livres. Mais je pense aussi avoir une maladie qui consiste à juste posséder des livres et être rassurée d'en posséder plein. Ouais. En lire, évidemment, autant que je peux. Mais surtout en posséder. Ouais. Les avoir pas loin comme des gris-gris, dire ça va, c'est bon, j'ai des livres, tout va bien, tout va bien aller si je veux m'échapper.
Mm-hmm. On
peut poser une question, à Juliette. Pourquoi la pièce de théâtre plutôt que le roman?
Parce que je pense que La Dame aux Camélias, ça tient dans les... Je l'expliquerai la semaine prochaine, mais je pense que ça tient dans ce qui n'est pas dit.
Ouais.
Et qu'un roman, bah, ça rentre à l'intérieur de la tête des personnages, alors que là, il y a des blancs qui sont, à mon avis, plus intéressants que ce qu'il a écrit sous la forme romanesque.
Mon avis. Mais c'est pour la semaine prochaine.
Mais oui, bien sûr.
J'attends.
Elle ne sait pas attendre, celle-là.
Ouais, et comme on n'a pas forcé Marion Séclin à lire, peut-être on vous a donné envie de le lire. On ne sait pas.
Oui, c'est vrai.
On verra. Ça fera un gris-gris de plus.
C'est vrai. Je vais faire ça en sortant.
Alors, cette émission est une petite académie. On a entendu Laëlia tout à l'heure et aussi un petit conservatoire avec Marina Chiche et son violon.
Bonjour à tous. Vous allez bien?
Oui.
Mais j'ai rien entendu.
Ouais.
Ah, vous m'avez manqué. Pas trop Guillaume Meurice. Ouais, aujourd'hui j'avais envie d'imiter Jean-Marc Lompré, mais bon. Concentrez-vous parce que j'ai amené du lourd pour cette chronique. Écoutez plutôt et voyez si vous reconnaissez.
Des Hauts-de-Seine.
Il y a l'hymne à la joie.
Alors oui, merci Charline de sauver cette émission. Oui, oui, je vous ai fait un petit arrangement pour violon de l'Ode à la joie qui provient de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Une des musiques les plus connues, une sorte de fétiche musicale devenue notre hymne européen. À ce sujet, je voulais vous parler aujourd'hui de l'enquête qu'a menée le musicologue Esteban Bourg, spécialiste de la question, et dont je rappelle l'ouvrage de référence, La 9e de Beethoven, une histoire politique. L'Ode à la joie est devenue l'hymne européen en 1972, suite à une décision du Conseil de l'Europe, choix confirmé par la communauté européenne en 1985. C'est immédiatement un symbole fort, avec son caractère universel et ses valeurs de fraternité. Vous savez, le texte de Schiller qui dit « Tous les hommes deviennent frères ». Mais vous allez voir, l'histoire est pour le moins sordide. En 1971, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Lujo Tomczyk-Soringe, confie la création de l'hymne à son ami le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan, à la tête de son orchestre, le Philharmonique de Berlin. Karajan est alors considéré comme l'un des plus grands chefs, un des plus influents, le big boss de la musique classique. Et voilà que Karajan propose au Conseil de réaliser un arrangement spécial pour l'hymne. Formidable!
à part qu'un nouvel arrangement signifie que Karajan devient de fait co-auteur de l'hymne européen. Et à la surprise des membres du Conseil de l'Europe, dès que la nouvelle est rendue publique, Karajan demande soudainement des droits pour son arrangement. Le secrétaire général va essayer de le convaincre d'y renoncer, mais pas moyen. Karajan est dur en affaires et impossible de rétro-pédaler puisque la participation de Karajan est déjà annoncée dans la presse. Donc aujourd'hui encore, la famille du chef d'orchestre touche des droits d'auteur sur les ventes de la partition publiée par la maison d'édition Schott et sur celle de l'enregistrement paru en 72 chez le label Deutsche Grammophon. Comme le dit Esteban Bourg dans son article, au-delà des droits des interprètes qui ne sont pas en cause, c'est probablement le seul cas où la musique de Beethoven profite à des personnes et des entreprises privées. Car comme il le démontre facilement, il s'agit bien de la musique de Beethoven. Si on y regarde de près, on ne peut pas dire que Karajan se soit foulé. Pour l'arrangement, il a juste rajouté une ligne de trombone, un grand ralenti avant la cadence finale, donc c'est une séquence de copier-coller dans les règles de l'art. Mais attendez, c'est pas fini. Plus grave encore, le fait que Karajan était un membre avéré du parti nazi. Devant les tribunaux de dénazification,
oui, bon, encore, bon.
il avait plaidé qu'il avait été obligé d'adhérer au parti nazi de 1935 à 1945 pour pouvoir poursuivre sa carrière.
Oui, bien sûr.
Or, il y a déjà plusieurs années de cela, il a été prouvé qu'il avait envoyé un formulaire d'adhésion dès avril 1933, sans parler des propos antisémites retrouvés dans ses correspondances de l'époque. Alors, n'est-ce pas choquant de se dire que la signature d'un ancien membre du parti nazi est apposée en bas de ce symbole de l'Europe ? Ne serait-il pas temps de lever cette ombre jetée sur l'œuvre de Beethoven ? Le musicologue Esteban Bourg a déjà pointé cela dans la presse à plusieurs reprises, et récemment encore lors d'un grand colloque en Allemagne. Toujours aucune réaction, ni à Strasbourg, ni à Berlin, ni à Paris. Alors, en attendant que les politiques se réveillent, écoutons la version instrumentale originale de Beethoven, ce moment saisissant où le thème émerge du fin fond des cordes graves, violoncelle et contrebasse, avant de se propager à tous les pupitres de l'orchestre. Sir Simon Rattle dirigeait le Philharmonique de Vienne dans le final de la 9e symphonie de Beethoven, dont fut extrait l'hymne européen. Alors oui, on le sait, Beethoven était sourd comme un pot, mais maintenant que le pot tout rose sur l'arrangement de l'hymne européen a été découvert, il serait temps que les politiques, eux, arrêtent de faire la sourde oreille.
Marina Chiche,
bam, bien envoyé.
Merci Marina. Et son violon. Vous avez repris les concerts à l'étranger, Marina Chiche.
Ouais, j'étais en vadrouille.
Ça y est, ouais,
l'Italie.
L'Italie, et puis... Ouais.
Ben, j'ai les États-Unis, c'était il n'y a pas si longtemps, ouais. Et il y a des projets pour y retourner.
Très bien. Ouais. Donc c'est reparti alors.
Ouais. Et puis avec Visorek à Marseille le premier jour.
Ah, très bien. Très bien, on a compris aussi.
On ne va pas jouer la version Karajan.
Enfin, c'est bien compris que non, ça c'est sûr. Merci Marina Chiche. Alex, qui est autour de la table avec nous?
Eh bien, on a entendu Marina Chiche, Juliette Arnaud, Laëlia Véron. Il nous reste la tant attendue chronique cinéma de Marion Seplin. Attention, ça s'approche. Mais avant ça, l'homme qui a survécu dans le bureau, je l'ai dit tout à l'heure, à deux masculinicides. C'est Guillaume Meurice.
Terrible. Et j'ai survécu à ce matin, surtout, parce que je suis allé à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total, où j'étais pas invité. Mais non seulement j'ai pas reçu le carton, mais ils m'ont refusé l'accréditation.
Encore?
Comme à la BNP la semaine dernière. Quand même, ça commence à me faire grosser la patate. J'ai l'impression d'être rejeté. J'ai commencé à le prendre perso. Et ben, vous savez quoi, j'étais pas le seul à pas être invité. Je sais parce que je suis allé quand même. Et quand je suis arrivé devant la salle, il y avait plein de militants écolos qui bloquaient l'entrée. Greenpeace, Alternativa, les Amis de la Terre, ANV COP21. On se serait cru dans un cauchemar de Pascal Praud. C'était fou. À tel point que l'AG a fini par être annulée en présentiel, uniquement dispo sur Internet, donc sans public. Et les actionnaires qui sont restés à la porte, ils étaient pas très contents.
Ça sert strictement à rien. Vous avez des types qui sont là, qui vous expliquent qu'on tue la planète et ils vont repartir en vacances. Ils iront sur les plages faire du jet ski et ainsi de suite.
Vous pensez que les jeunes qui sont là, ils font du jet ski?
Bien sûr qu'ils en font. Ils font même des rodéos en banlieue de temps en temps.
Ceux qui sont là?
Oui.
Bien sûr. Attends, on connaît les jeunes, c'est les mêmes, ils se déplacent en hélicoptère, ils ont un jetpack et tout. Non, on connaît l'hypocrisie. Regardez la Elia, tout le monde croit qu'elle est stylisticienne ou je sais pas quoi, alors qu'elle est influenceuse Becherel à Dubaï. Enfin, tout le monde le sait. Enfin, c'est honteux. Comme les écolos qui bloquent l'entrée de la salle.
Je trouve ça inadmissible que les écolos viennent nous prendre en otage. Voilà.
Vous vous sentez prise en otage, hein?
Exactement, on ne peut pas rentrer. La démocratie, on doit pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale, il faut savoir nous respecter.
La prise d'otage, c'est qu'on ne peut pas sortir.
Mais là, on est pris en otage, on ne peut pas rentrer.
Ah oui, alors c'est une nouvelle forme de prise d'otage, c'est assez disruptif. On a été obligé d'aller boire un café au COS, tellement on était pris en otage. Imaginez que ça inspire Daesh. Voilà, on va se retrouver pris en otage à l'extérieur, comment on pourra s'évader? On sera déjà dehors, c'est complètement dingue ce truc. Bon, on va devenir fou, c'est la folie ces manifs.
C'est orienté, et il y en a marre. Moi j'en ai personnellement, j'en ai marre. Hein. Mais, et pas un service d'ordre. Comment on peut comprendre ça? D'une part, et au niveau État, c'est la chienlit, c'est le bordel.
Bah, vous l'avez bien dit, mon général. Non, mais je vous garantis que si le seum était coté en bourse, il aurait pris 15 points d'un coup ce matin. Mais vraiment, le désespoir était comment? Il était total. Bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est pas juste, voilà, c'est pas juste pour ces braves actionnaires qui sont écolos.
Écoutez, moi je suis pour l'écologie, mais pas une écologie qui est agressive et qui s'occupe de d'autres problèmes comme nous avons à Grenoble et certaines personnes que je ne nommerai pas.
À Grenoble, qu'est-ce qu'il y a comme problème?
Ah bon, d'accord, ok, il n'y en a pas.
Le Burkini?
Oui, le maire écologique.
Oh, le maire écologique! Ah là là! Mais oui, parce que le problème, c'est pas les mégatonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère par Total, c'est les femmes qui se baignent tout habillées, bordel! L'industrie textile, ça pollue énormément. Le chlore dans les piscines, c'est dégueulasse. Il faut le dire et le redire, c'est incroyable. Le danger est à nos pédiluves. Il faut le dire. D'accord? Heureusement qu'il y a des personnes d'expérience pour le rappeler. Mais ceci dit, chez les actionnaires, j'ai aussi trouvé des jeunes, notamment un jeune lucide.
Je pense quand même que Total doit prendre le maximum de... Je pense qu'ils doivent prendre des garanties pour un peu protéger au maximum l'environnement dans leur exploitation.
Vous êtes sûr de ça?
Alors, on va dire oui.
Voilà, on va dire oui. Ah, on va dire que c'est bon, on va dire d'accord. Alors, il avait un peu moins la rage que les autres. Il avait le même âge, en fait, que ceux qui manifestaient en face de lui. Mais il pigeait pas très bien, parce que pour lui, Total, c'est une entreprise écolo.
C'est une entreprise écolo dans le sens que ils essayent de limiter au maximum les effets nocifs qu'ils peuvent avoir à l'environnement. Notamment, par exemple, pour le pétrole.
Ils ont du pétrole éco-responsable.
Voilà, c'est ça. Mais le pétrole, c'est bio, hein, c'est la dégradation de la biomasse.
Hein. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Le pétrole, c'est la dégradation de la biomasse. J'avais pas vu venir. C'est vrai que c'est du cadavre de dinosaure décomposé, mis sous pression. Finalement, c'est comme l'uranium. C'est bio. Moi, j'en mets avec le tofu. Mais c'est bio, en fait. Il y en a la biocope. Allez, terminons en retournant voir le premier intervenant, qui, lui, du coup, a des solutions pour la planète.
C'est de faire moins de gosses. L'Afrique, c'est 2 milliards d'habitants dans pas longtemps.
C'est de la faute des Africains qui font des enfants.
Bah évidemment, si on essaie de voir où sont les problèmes, ils sont quand même là. On leur donne pas de vaccins, comme ça on est sûr que ça va. La population n'augmente pas, et ainsi de suite.
Ah ben là, c'est des, vous avez des solutions radicales.
Mais c'est pas radical.
Non. Est-ce que c'est pas un peu radical de laisser mourir des gens?
C'est comme ça que ça marche.
Et ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Ben c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Total est présent en Ouganda, où ils construisent le plus gros projet pétrolier du monde. Mais Total est également présent en Russie, parce que la guerre diminue la population ukrainienne, et c'est écolo. Tout ça, c'est écolo. Bref, s'ils sont dans les parages, faites gaffe quand même. Ils viennent pas chez vous par hasard.
Guillaume Meurice. Alors souvent vous avez des cons. Vraiment. Vous avez des cons. Là, mais là, des cons. Vous avez trouvé des gros cons, mais vraiment des très très gros cons.
Ils étaient énervés, donc on peut pas dire c'est des cons, mais ils étaient, ils avaient le seum.
D'accord.
Ils voulaient voir la belle assemblée générale de chez Total et on l'a.
Non mais le dernier là.
Ouais, le dernier, je pense qu'il était très énervé, trop énervé. Peut-être.
Ouais, mais moi j'ai souvent le seum et je suis pas aussi con.
Ouais.
Je crois.
Ouais, non mais ouais, c'est vrai.
Enfin, j'ai l'impression.
Moi aussi j'ai le seum. Enfin, c'est... Alex et moi, on a le seum depuis
oui,
un moment.
Le dire.
Ah, quand je parle de foot, parfois je suis un peu con.
Moi aussi je suis con, mais t'es grand con.
On se retient quand même.
Zut, bon, flûte. Ça péripopette. On a trouvé un rire plus fort que celui de Juliette Arnault. Il y a quand même Marina Chiche. Ne vous effrayez pas.
Oui, mais il est en domineur.
Ouais, ben voilà. Attention, riez pas. Reculez-vous parce que les exercices sont pas. Reculez-vous parce que parfois les exercices sont très très drôles avec Alex Vizorek. Faites attention.
Oui, mais là c'est pas pour rire parce que grosse annonce dans les médias. J'espère que vous êtes au courant. Michel Drucker change de chaîne.
Oui.
Là, il faut reprogrammer la télévision. Ouais, moi j'avais France 2 en 1 pour être sûr de tomber dessus le dimanche en allumant. Bref, on va mettre France 3. Voilà. Mais c'est pas non plus ouf comme changement. Mais c'est pas le premier gros transfert du Mercato TV et radio cette année. Alors, essayez de retrouver la bonne réponse parmi les quatre suivantes. A, Bruno Retailleau va quitter France Inter en fin de saison.
Mais il travaille pas à Inter.
Bah, il est là plus souvent que Marina.
Je sais, c'est mon cum.
Bah oui, mais bon, à un moment, il faudrait savoir. Réponse B. Marlène Schiappa va passer du Conseil des ministres à C8 et elle présentera Touche pas à mon lissage brésilien.
Non.
C'est possible.
C'est possible.
C'est très possible.
C'est un exercice.
On se sait. À la rentrée, Patrick Poivre d'Arvor va présenter une émission sur Ushuaïa TV.
Ça, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. C'est le principe des exercices. Et réponse D, François Audouin, notre réalisateur, va passer de co-animateur hier à Pôle emploi spectacle demain.
Ouais, tu sortiras par la porte de derrière, du coup, toi.
Il y a une réponse E, il y a Alex Vizorek chez Cyril Hanouna, c'est en train de se négocier.
A priori, ça se négocie, on avance.
Alors, la reconversion de l'ex-ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari chez l'armateur CMA-CGM a été recalée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Oh,
le pauvre n'aura pas le boulot. Les reconversions sont pas toujours faciles pour les politiques. Parmi les infos suivantes, lesquelles sont vraies, faites gaffe parce qu'il y en a une qui est vraiment vraie. Petit A, Valérie Pécresse a rejoint la rédaction de combien ça coûte sur TF1.
Blague des années 90. Ouais,
Jean-Charlie Gomet. Vous savez, c'est vendredi du mercredi. C'est cette petite semaine. Donc, Jean-Marie Le Pen est devenu opticien à Meudon.
Oui, c'est là.
On est en fin de semaine, demi de semaine. L'ancien ministre sous Sarkozy, Frédéric Lefebvre, a relancé le magazine Pif Gadget.
Ouais.
Et il y aura une bonne de bonne. Et Gérald Darmanin a relancé le journal de l'immobilier. Guillaume.
Oui, mais c'est parti, Roland Garros a démarré. Alors parmi ces infos, lesquelles sont vraies? Réponse A, à l'heure où on vous parle, Benoît Paire n'a encore insulté personne à Roland Garros. Réponse B, à l'heure où on vous parle, il reste 9 Français en lice. 8, pardon. 7. 6, ah bon, 5, bon c'est pas facile.
Non,
réponse C, Richard Gasquet a déjà sniffé la ligne de fond de cour.
Ça aussi c'est une vieille blague, non?
Oui, oui, ça aussi.
Pour les références. Réponse D, comme sport de riche, Alex Vizorek préfère le golf.
C'est vrai.
Ah mais c'est pas la réponse.
J'aide les gens.
Et dis réponse.
C'est la fin de saison, on est le 30 juin. Pour la vieille blague. Non, mais c'est bon, on est fatigué, ça arrive. Non,
bien,
vous n'êtes pas
coûte.
Fatigué chez vous,
Jean-Pierre Pernaut, si tu le regardes.
Fatigué. Limite la dépression. Vive les vacances. Jack White, Shedding My Velvet.
As I
vous aviez reconnu Alex, évidemment,
bien
Jack White.
Sûr. Jacques Leblanc. Pas. Jacques Leblanc, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Merci Alex, je savais qu'il fallait que je vous le demande. 17h53, c'est Marion Séclin qui est avec nous aujourd'hui. Ça va Marion, toujours, c'est bon.
Oui, ça va toujours.
Ça va.
Je suis prête.
Vous êtes prête depuis hyper longtemps.
Ouais, ça fait 6 mois que je suis dans le starting block.
Quand on vous a proposé de le faire, vous m'avez dit tout de suite, je suis prête.
Ouais, je suis prête. Trop prête. J'étais déjà prête.
Et oui, attention, la Jupy Masterclass de cinéma de Marion Séclin, c'est maintenant.
Alors, quand on m'a demandé de faire une chronique sur le cinéma, j'ai d'abord trouvé ça un peu débile. Allais-je devoir parler du confort des sièges, de la qualité du son ou du goût des pop-corn? Et puis j'ai compris que c'était moi qui étais débile, qu'il s'agissait de vous parler d'un film et non du lieu où il est projeté. Alors moi, j'aime pas l'air du temps. Alors j'aime l'air parce qu'il me permet notamment de respirer ou de rire aux chroniques de Guillaume Meurice, mais je n'aime pas que le présent me force à enfiler mon costume, le masque et la plume, un costume de celle qui pense qu'elle pense mieux que les autres et qui vous influencera ou pas à aller dans une salle obscure. Donc j'ai décidé de vous parler d'un film qui est déjà sorti il y a bien longtemps, non pas pour vous dire c'était mieux avant, mais pour vous prouver que l'excuse, c'était une autre époque pour justifier le sexisme récurrent du cinéma, c'est une grosse connerie. Je vais vous parler de Dirty Dancing qui est sorti en 1987 en vous expliquant pourquoi c'est le film le plus féministe du XXe siècle. Eh oui, je sais, vous ne me croyez pas.
Non,
hein.
Non.
Ben non, mais forcément, le marketing girly l'a présenté comme un énième navet pour gonzesses. Mais il n'existe pas d'œuvre plus empowering pour les filles, les femmes et les hommes pas trop bêtes. Voici donc pourquoi Dirty Dancing est un film féministe. Spoiler alert, je vais spoiler l'intégralité du film. Je vous invite juste à le revoir avec un nouvel angle, évidemment. Alors d'abord, c'est l'histoire de Bébé, une jeune fille issue d'un milieu aisé et décrite aussitôt comme une tête au brillant avenir, future avocate ou diplomate. Oh, dites donc, on la décrit par son intellect et pas par son physique. C'est incroyable. Arrivée dans un camp de vacances pour familles bourgeoises, Bébé participe bientôt aux cours de danse qui y sont proposés et gauche et maladroite, elle se bat contre un corps sans grâce. Ça voudrait dire qu'être sexy, c'est pas inné chez les femmes, c'est incroyable. Alors puisqu'elle s'ennuie des activités passe au doblé et bingo, elle se retrouve malgré elle un soir dans la résidence des employés composée principalement de jeunes gens issus de la classe populaire et c'est là qu'elle croise le regard de Johnny, un beau danseur aux pectoraux saillants et aux chorégraphies lascives. Elle apprend que...
Calmez-vous,
ouais,
c'est vrai.
Non, ça m'a...
Bah oui.
La sève, hein, oui.
Bah oui. Alors elle apprend que la partenaire de danse de Johnny, Penny, est enceinte et doit se faire avorter. Le film se déroule pendant l'été 63, date à laquelle l'avortement est encore interdit aux États-Unis. Pour que vous voyez un peu, c'est un peu comme aujourd'hui, mais il y a 59 ans. Alors attendez, vous voulez dire qu'on parle d'un acte prohibé mais fondamental sans le questionner et sans que personne ne tente de dissuader la fille concernée. C'est incroyable. Alors Bébé se retrouve obligée pour aider Penny de la remplacer au gala où elle devait se produire avec Johnny. Elle doit donc apprendre la chorégraphie. Elle est aidée par Johnny et par Penny. Ce qui voudrait donc dire qu'il n'y a pas de compétition féminine entre deux personnages féminins. Non, c'est incroyable. Bébé découvre donc en dansant comment habiter son corps différemment. Et puis bon, bah voilà, Bébé et Johnny, à force de proximité, ils finissent par se bécoter. Johnny confie à Bébé qu'il n'hésite pas à se prostituer l'été auprès des femmes riches dont les maris sont absents. Oh, dites donc, ça voulait dire qu'un homme aussi, parfois, a la nécessité de vendre ses charmes pour survivre. C'est incroyable. Johnny fait une scène à Bébé quand il s'aperçoit qu'elle a pas trop envie d'assumer devant sa famille qu'elle sort avec un prolo. Ça voudrait donc dire que c'est lui la bergère et que c'est elle le chevalier. C'est incroyable. Bébé finit par avouer pour disculper Johnny d'un vol qu'il n'a pas commis devant ses parents et le directeur du camp de vacances qu'il est forcément innocent puisqu'au moment des faits, elle était avec lui dans sa chambre et pas pour répéter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça voudrait dire qu'une femme pourrait défendre un homme au risque de tout perdre. C'est incroyable. Alors, je voudrais qu'on oublie le porté iconique, qui n'est qu'une diversion pour détourner l'attention des filles sur les détails inutiles. Parce que avouez que c'est pas indispensable pour sauver la planète ou lutter pour l'égalité salariale de savoir faire se porter à la con. Le film se termine sur le spectacle final où Johnny avoue sur scène devant tous les bons bourgeois et le personnel du camp qu'il va partager cette dernière danse de la saison avec une femme qui lui a appris que quand on croit à quelque chose, on ose et on se bat. Et on ne laisse pas Bébé dans un coin. Ça voudrait donc dire que c'est elle qui inspire la leçon du film et pas lui, mais c'est incroyable. Et ça voudrait donc dire que les femmes sont des gens comme les autres. C'est incroyable. Alors le film a l'âge qu'il a, mais son propos date de dans 50 ans, quand on aura enfin décidé d'arrêter de faire chier les femmes et qu'on aura compris qu'elles ont une âme. Alors c'était une autre époque et pourtant l'absence de sexisme de ce film prouve bien qu'on peut raconter des histoires sans clichés, sans viol et sans trop de difficultés. Incroyable, non?
Mais on va le regarder tellement différemment. Merci, bah ouais. Marion Séclin. Mais ouais.
C'est devenu mon cheval de bataille d'expliquer aux gens que
ce film n'a absolument pas ce qu'on croit qu'il est.
Ah bah écoutez, alors là, démonstration faite. Merci beaucoup Marion Séclin. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur Instagram. Suivez Marion parce qu'elle lance des concours n'importe quoi. Ouais.
Si vous voulez recevoir des Discman ou des rats du cou, n'hésitez pas.
Merci à toutes et à tous les amis. Merci Laëlia Véron, Marina Chiche, Juliette Arnaud. Merci Alex Vizorek, Guillaume Meurice et Marion. Je vous dis à demain pour une excellente émission puisqu'il s'agira d'un florilège.
Ah, ok. Les autres fois chez vous, vous en foutez pas une rame, tout ça.